Épisode 6, le géant de Patagonie.
Intanto la nave Santiago, che era stata mandata ad esplorare la costa, sorpresa dalla tempesta, naufragò. Ma tutti gli uomini dell'equipaggio si salvarono e due di essi, a piedi, riuscirono a raggiungere...
Le capitaine général envoya le Santiago en reconnaissance. Mais ce navire se perdit et fit naufrage. Par miracle, tous les hommes purent se sauver. Et deux d'entre eux revinrent nous trouver, couvrant à pied la distance. Ils avaient échoué à une vingtaine de lieues seulement. Mais il fallait 4 jours de marche pour rejoindre l'épave. Le chemin était entravé d'épines et l'on ne trouvait pas d'eau. Nous pûmes ramasser les éléments du navire qui pouvaient encore servir et rassemblant les hommes d'équipage du bateau échoué, nous pûmes regagner la flotte. Près du lieu du naufrage se trouve une haute montagne et c'est là que nous avons planté une croix pour montrer que ce pays appartenait au roi d'Espagne. Nous appelâmes cette montagne le Mont du Christ. Au 51e degré, moins un tiers, de l'Antarctique, nous trouvâmes une rivière d'eau douce. C'était le 14 septembre 1520, jour de l'exaltation de la croix. Aussi le capitaine général lui donna pour nom Santa Cruz. Nous reprîmes la route, descendant vers le 52e degré du ciel antarctique. Et le 21 octobre, jour de Sainte-Ursule, nous trouvâmes, par miracle, un détroit que nous appelâmes le Cap des 11 000 Vierges, en souvenir de la fille du roi de Bretagne qui, après un pèlerinage à Rome accompagné de tant de vierges, fut massacrée pour avoir refusé d'épouser le roi des Huns. Ce détroit est long de 110 lieues, c'est-à-dire 440 000, et presque autant de largeur, et tombe dans une autre mer qu'on appelle aujourd'hui mer Pacifique. En ce lieu dit, il ne fut pas possible de mouiller les ancres. Force nous fut de tirer en terre les amarres de proue sur 20 ou 30 brasses de longueur. Nous pensions qu'il n'y avait aucun endroit pour saillir de ce détroit, entouré de montagnes. Mais le capitaine général n'était pas de cet avis.
J'ai vu sur une carte marine du roi du Portugal, dressée par le grand savant et astronome Martin de Boesme, qu'il existe un passage au sud de ce détroit. Aussi, je veux que deux navires partent en reconnaissance, le San Antonio et la Concepcion, pour aller chercher et découvrir la sortie du détroit, tandis que nous, avec les deux autres navires, la Trinidad et la Victoria, nous demeurerons à les attendre dans la baie.
Le soir même, une tempête se leva.
Sorpresi la notte da una violenta tempesta che ci obbligò a levare le ancore e a bordeggiare nella baia.
Et nous eûmes une grande fortune qui dura jusqu'au lendemain midi. Force fut de lever les ancres et de laisser dériver les navires dans la baie. Les deux navires qui étaient partis en exploration étaient quant à eux en travers de lame, si bien que ne pouvant doubler le cap qui se présente tout au bout de la baie, ils durent rentrer toutes les voiles. Ils s'approchèrent du rivage si près qu'ils crurent s'échouer. Quand soudain, ils aperçurent une petite ouverture et s'y aventurèrent. Il y avait là une autre baie. Ils allèrent plus avant, trouvèrent encore un détroit, encore une baie, mais plus grande que les deux autres. Alors, très joyeux, ils s'en retournèrent nous rejoindre. Nous pensions qu'ils avaient péri dans la tempête. Ils avaient disparu depuis 2 jours. Nous étions soulagés quand nous vîmes apparaître leurs voiles pleinement déployées. Dès qu'ils nous aperçurent, ils tirèrent de leur artillerie. C'était le signal convenu pour nous annoncer leur découverte. Nous leur répondîmes en grande joie. Ensuite, tous ensemble, remerciant Dieu et la Vierge Marie, nous allâmes plus avant. Après avoir pénétré dans ce détroit, nous trouvâmes 2 bouches, dont l'une tirait au vent de Sirocco et l'autre au Garbin. Par quoi le capitaine envoya le San Antonio et la Concepcion pour voir si cette bouche avait une sortie vers la mer Pacifique, tandis que le capitaine général et l'autre nef, la Trinidad, allèrent ensemble pour découvrir l'autre bouche vers Garbin, où, en continuant, nous trouvions le même détroit. Nous arrivâmes à une rivière que nous appelâmes Rivière des Sardines. Nous sommes restés là pendant 4 jours. Ceux de la Concepcion mirent 3 jours pour aller et venir. et ils nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap et la grande mer. Alors, le capitaine général pleura de joie et il nomma ce cap le cap du désir ou de la bonne espérance, comme une chose bien désirée et de longtemps. Il demanda au commandant de la Concepción ce qu'il était advenu du San Antonio. Il répondit qu'il n'en savait rien, l'ayant perdu de vue après la tempête.
Il faut retrouver le San Antonio, remonter tout le détroit jusqu'à la bouche par où il est entré.
Hélas, le San Antonio ne reparut point. Nous crûmes que le navire avait fait naufrage. Mais la vérité fut tout autre, et je l'appris 2 années plus tard après notre retour en Espagne. Je vais maintenant vous conter cette affaire. Magellan était un homme remarquable, qui avait sa méthode. Il savait que, pour faire admettre ses projets à ses hommes, il fallait les amener à ce que ses idées deviennent les leurs. Il connaissait cette loi qu'observent les grands chefs, qui consiste à conformer leurs ordres à la nature de ceux qu'ils gouvernent. Il eût pleinement réussi à obtenir l'obéissance générale si certains cœurs irréformables n'eussent macéré dans l'aigreur de leurs propres échecs. Pendant toute la traversée de l'Atlantique, jamais l'amiral n'avait consulté qui que ce soit. Et tel était son droit. Au pire moment du complot qui visait à l'éliminer, il avait pris seul en main la direction des opérations et avait réussi, avec le concours de ses plus fidèles amis, les capitaines Alvaro de Mesquita et Joao Serrao, à reprendre les navires des insurgés. Mais il savait également que les querelles ne manqueraient pas de ressurgir et qu'à la première occasion, ceux à qui il avait pardonné leur mutinerie reviendraient à l'assaut, bourdissant le même projet que leur avait instillé Juan de Cartagena, c'est-à-dire éliminer sa personne. Pour déjouer cette future rébellion des commandants espagnols, le capitaine général prit les devants.
Mes amis, je me suis aperçu que mon désir de continuer l'expédition est à vos yeux une décision grave et que vous ne croyez pas que la saison soit bien favorable pour entreprendre un tel voyage. Je n'ai jamais dédaigné la vie, ni le conseil des autres, et tous mes actes sont discutés et examinés avec vous, sans que quelqu'un puisse se plaindre d'avoir été outragé par moi. Or, depuis les événements du port de Saint-Julien, je sais que vous craignez de me communiquer vos sentiments, même pour le service de Sa Majesté. Je vous ordonne, par la présence, au nom du roi et personnellement, je vous prie et conjure de me faire savoir votre opinion par écrit et de m'exposer les raisons en faveur de la continuation du voyage ou du retour. Que rien ne vous détourne de dire la vérité. Après avoir pris connaissance de vos motifs et de votre avis, je vous dirai la décision qu'il convient de prendre.
Moi, Estevao Gomez, pilote du San Antonio, vous réponds franchement, capitaine général. Aussi longtemps que durera la saison d'été, c'est-à-dire jusqu'à la mi-janvier, la route peut être continuée. Comme le temps commence à se dégrader, il ne faudrait plus tarder à entreprendre le voyage de retour, car les jours décroissent et les tempêtes deviennent très dangereuses. Surtout s'il faut côtoyer le littoral jusqu'à 75 degrés de latitude sud, comme il est dit dans l'instruction promulguée au Rio de Santa Cruz. Les équipages sont fatigués, nous ne pourrons pas naviguer de nuit. Les câbles des navires sont usés, la Victoria n'en possède même plus un seul. Enfin, les provisions ne suffisent pas pour que nous poussions le voyage jusqu'aux Moluques.
Capitaine général, Estevao Gomez est un bon pilote. Il sait de quoi il parle.
Lieutenant Pigafetta, je préfère que vous continuiez à converser avec nos Indiens de Patagonie plutôt que vous voir occupé de navigation. Gomez est en effet un bon pilote, mais son esprit souffre d'une fâcherie. L'exposé qu'il nous fait n'est que mensonge. Qui parle de descendre jusqu'au 75e degré alors que nous avons découvert le détroit au 52e ? Il nous fixe les dates limites de notre voyage en janvier, nous parlant des intempéries, alors que celles-ci sont déjà derrière nous et que nous sommes à peine fin novembre. Quant à nos provisions, les cales sont pleines. Gomez a le cœur rongé d'une toute autre ambition.
Je me renseignais sur ce Gomez, qui avait, comme le capitaine général, quitté son pays pour se mettre au service de la couronne d'Espagne. Il était allé, lui aussi, voir l'empereur pour essayer d'obtenir quelques navires. Mais par la venue du capitaine général, l'empereur ne les bailla pas à ce pilote, à la suite de quoi il se conjura avec quelques Espagnols et son complice Guerra. Gomez était jaloux de n'avoir pas été nommé commandant, l'amiral lui ayant préféré Alvaro de Mesquita et Duarte Barbosa. Ce qui du reste était une sage décision, car tous deux étaient des capitaines éprouvés. Voici ce qui se passa. L'amiral envoya le San Antonio en reconnaissance par vent de Sirocco pour découvrir la dernière sortie de la baie, il y arriva rapidement et bien avant la Concepción qui, elle, prenait l'autre route par vent de Garbin. Le capitaine Alvaro de Mesquita fit allumer de grands feux sur une colline proche pour signaler sa présence et ordonna que l'on retournât sans plus attendre rendre compte de la découverte à Magellan. Mais le pilote Gomez et ses amis, ayant fomenté leur révolte, s'emparèrent du navire, firent prisonnier le commandant Mesquita, refirent le tour de la baie et s'en retournèrent directement en Espagne. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans la baie de San Julián pour tenter de retrouver Juan de Cartagena que l'amiral y avait déposé. Gomez voulait le ramener en Espagne afin qu'il lui servît de témoin au procès qui ne manquerait pas d'avoir lieu. Ayant de son côté ce cousin de l'évêque de Burgos, il était persuadé qu'il obtiendrait gain de cause. Magellan serait déclaré félon, tandis que lui-même se verrait gratifié de toutes les récompenses de sa découverte. C'est le 6 mai 1521 que le San Antonio arriva à Séville. Gomez chargea Magellan de toutes les fautes, rédigea un rapport détaillé à l'évêque de Burgos, qui apprit avec consternation comment Magellan avait déposé son neveu Juan de Cartagena. Comme l'évêque était également président du Conseil des Indes, il en rendit compte immédiatement au roi, qui fit jeter en prison Juan de Mesquita, accusé d'avoir présidé le tribunal qui avait condamné Cartagena. Influencé par les innombrables accusations que les félons colportaient, d'autant qu'ils étaient des véritables traîtres, l'évêque de Burgos s'en prit à la famille de Magellan, contre qui il énonça des mesures conservatoires. Dona Béatrice et ses enfants étaient surveillés de près, dans l'attente du procès. À notre retour de ce grand voyage, l'empereur fit heureusement libérer Juan de Mesquita, mais ce traître de Gomez fut non seulement autorisé à prendre part à de nouvelles expéditions, mais il reçut les insignes de chevalerie, ayant découvert le détroit en qualité de guide et de pilote-major.
Mercoledì 28 novembre 1520, uscimmo dallo stretto e avanzammo nel Pacifico.
Chaque jour, je m'entretenais avec le géant que nous avions capturé en Patagonie. Comme je notais ses mots pour m'en souvenir, je les lui répétais et il me comprenait. Il prononçait tous les mots avec la gorge. Le chef se dit. Les yeux se disent. Le nez se dit. Les cils se disent. La paupière des yeux se dit. Les deux narines. Les lèvres. Les dents. Le menton. La main.
Mercoledì 28 novembre 1520, uscimmo dallo stretto ed avanzammo nel Pacifico. Rimanemmo 3 mesi e 20 giorni senza il refrigerio di nessuna cosa. Mangiavamo biscotto, che non era più biscotto ma polvere piena di vermi puzzolente, dorina di sorci e bevevamo acqua gialla.
C'est le mercredi 28 novembre 1520 que nous saillîmes hors du détroit et entrâmes en la mer Pacifique. Où nous demeurâmes 3 mois et 20 jours sans prendre vivre ni autre rafraîchissement. Nous ne mangions que de vieux biscuits réduits en poudre, tout pleins de vers et puant l'ordure et l'urine que les rats avaient fait dessus après avoir mangé le bon. Nous buvions une eau infecte. Nous mangeions les peaux de bœuf dont était garnie la grande vergue. Elles étaient durcies par le soleil, la pluie et le vent. Nous les laissions macérer dans la mer 4 ou 5 jours, puis nous les mettions un peu sur les braises et nous les mangions ainsi. Nous mangions de la sciure de bois et des rats, qui coûtaient un demi écu l'un, et encore ne s'en trouvait-il pas assez. Le pire était le mal des gencives dont nos gens souffraient. Elles croissaient dessus et dessous si fort qu'ils ne pouvaient manger et qu'ils en mouraient. Tant qu'il en mourut 19, dont le géant de Patagonie, ainsi qu'un Indien du Brésil que nous avions emmené. Grâce à notre Seigneur, je restais en bonne santé. Durant ces 3 mois et 20 jours, nous couvrîmes 4 000 lieues par la mer Pacifique. Celle-ci était bien nommée, car durant ce temps, nous n'eûmes aucune fortune de mer, et nous demeurâmes sans apercevoir aucune terre, sinon 2 îles inhabitées, où nous ne trouvâmes que des oiseaux et des arbres, et nous les appelâmes les îles Infortunées. Là, nous vîmes plusieurs tiburoni, qui est une sorte de grand poisson, que l'on appelle également requin. Nous remarquions que le pôle antarctique n'était pas tant étoilé que l'Arctique, et que notre boussole tirait toujours un peu à son pôle arctique, mais avec moins de force que lorsqu'elle était vers son propre pôle. Aussi, le capitaine général se douta que nous commettions une erreur dans le pointage des positions. Il demanda à tous les pilotes d'aller toujours à la voile, de pointer notre chemin sur les cartes. Tous répondirent qu'ils suivaient exactement la route tracée. Mais Magellan, qui avait l'instinct des étoiles, répondit que les pointages étaient erronés et qu'il convenait d'ajuster l'aiguille à naviguer parce qu'en cette latitude, elle ne recevait pas tant de force qu'elle en avait de son côté, c'est-à-dire qu'elle subissait une attraction inhabituelle qui modifiait l'indication du nord. Nous vîmes alors dans le ciel une croix de 5 étoiles très claire, droite au ponant. « Capitaine, cette constellation se nomme la Croix du Sud. »«
Igafeta, je ne vous savais pas astronome. »
J'ai appris son existence dans le purgatoire.
Monseigneur Chirigati, le nonce apostolique dont vous étiez le secrétaire possède assurément de grands pouvoirs s'il a réussi à vous en faire revenir.
Capitaine général, je parle du purgatoire, le livre de Dante.
Il était marin ?
Encore moins que moi. Mais des navigateurs italiens qui étaient descendus en deçà de l'équateur, sous le 10e degré, avaient vu la constellation et lui en avaient parlé. C'est pourquoi le grand poète l'appela « Croix du Sud ».
Vous direz à votre poète que nous allons rester au maestral jusqu'à ce que nous arrivions à la ligne équinoxiale qui est éloignée de la ligne de démarcation de 26 degrés. Cette ligne est loin du vent du midi de 30 degrés. J'ignore où est le purgatoire, mais sachez que l'enfer est devant nous, et je ne sais pas si nous en viendrons.
En passant par ce chemin, nous rangeâmes 2 îles fort riches. L'une est au 20e degré de latitude au pôle antarctique et s'appelle Chipango, dont Marco Polo a parlé dans ses voyages. L'autre se situe au 15e degré du dit pôle et se nomme Sumdit Pradit.
Après que nous ayons passé la ligne équinoxiale, nous naviguerons 200 lieues par le ponant jusqu'au 13e degré au pôle arctique pour nous rapprocher du cap Katikera, afin de le situer avec précision, car ceux qui établissent la cosmographie ne l'ont pas vu. Il ne peut se trouver là où il pense.
Après avoir navigué 60 lieues par le chemin au 12e degré que le capitaine général avait déterminé, au 146e degré de longitude, le mercredi 6e de mars 1521, nous découvrîmes une petite île sous le vent de Mestral et 2 autres tirant vers le Garbin. L'une de ces îles était plus grande et plus haute que les autres. Le capitaine général voulait aborder la plus grande de ces 3 îles pour se rafraîchir en vivres, mais ce n'était pas possible, car les gens de cette île, embarqués sur de petites barques rapides, avaient rejoint nos nefs et entrèrent dans les navires avec une vélocité extrême. Ils étaient si nombreux et dextres qu'on ne pouvait s'en garder. Ils nous volèrent tout ce qu'ils voyaient. Ils nous dérobèrent avec grande adresse et diligence, le petit esquif qui était amarré à la poupe du navire du capitaine. Magellan en était courroucé. Aussi ordonna-t-il d'aller à terre. Il prit lui-même le commandement de 40 hommes armés. Ils mirent le feu à une cinquantaine de maisons de ces ladres, tuèrent 7 hommes de l'île et recouvrirent l'esquif. Avant de descendre à terre, certains des nôtres malades nous avaient prié, si nous tuions quelques hommes ou femmes de l'île, de leur rapporter leurs entrailles, qu'ils utiliseraient comme onguent et dont ils pensaient guérir. Mais personne ne s'est livré à cette horrible chirurgie.
Quando qualcuno degli indigeni veniva ferito di verrettone e trapassato da parte nei fianchi, girava di qua di là il verrettone per guardarlo, poi lo estraveva meravigliandosi molto e moriva. Così pure facevano quelli che erano feriti nel petto. Quando i nostri andarono, gli indigeni li inseguirono in più di 100 canotti per oltre una lega.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Di Meo Giovanni, Antonio Pigafetta, Frédéric Thomas, Antonio Pigafetta, voix française, Nicolas Degremont, Magellan, Alain Roux, Estevan Gomez,